18h30 ici à Paris, nous évoquons les faits divers ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Alors la rubrique des faits divers dans les médias, par le passé, pouvait être surnommée de manière péjorative les chiens écrasés. Alors elle semble, cette rubrique, avoir acquis ses lettres de noblesse. En témoigne la place qu'elle occupe aujourd'hui dans les journaux, à la télé, à la radio. Les faits divers, on peut le dire, sont omniprésents à tel point qu'ils constituent le thème cette année des Assises du journalisme qui se déroulent toute la semaine à Tours, dans l'ouest de la France. Les médias aiment les faits divers, les Français aussi, en témoigne un baromètre que l'on va détailler. Et la question est de savoir pourquoi. Les faits divers sont-ils des faits de société ? Voilà notre débat ce soir. Qu'y a-t-il derrière le voyeurisme, l'attirance pour le morbide ? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Bérénice Mario, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Institut catholique de Paris. Votre ouvrage qui vient de sortir, Mécanique du fait divers, histoire singulière, émotion collective. Face à vous, Jacques Expert, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, écrivain, auteur de nombreux livres et notamment sur des faits divers. Vous êtes ancien grand reporter à France Inter et vous avez notamment couvert l'un des faits divers les plus emblématiques en France, l'affaire du petit Grégory. Margot Hochet, notre troisième invitée, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chargée d'études à l'Institut Via Voice. Vous avez travaillé sur le baromètre sur l'utilité du journalisme, avec lequel, au passage, France Média Monde est partenaire, et dont le grand thème cette année, eh bien, comme pour les Assises du journalisme, le grand thème, c'est les faits divers. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Première question, Bérénice Mario. Faits divers, c'est un terme assez vague. Comment vous le définiriez ? Qu'est-ce qu'un fait divers ?
Alors déjà, oui, effectivement, c'est vague, puisque même dans le terme, hein, on a divers, donc diversité d'événements. On pourrait penser que c'est un peu une catégorie fourre-tout. C'est un terme qui est né avec la presse. Donc c'est vraiment une rubrique dans la presse au 19e siècle, où on n'arrivait pas forcément à caser certaines informations dans politique, culture, etc. Mais néanmoins, on voit bien qu'il y a quand même une spécificité d'événements. Il y a vraiment un genre fait divers. Si on essaie de synthétiser, c'est voilà un événement qui arrive à des personnes ordinaires, avec un retournement de situation plutôt extraordinaire, qui va traiter de l'ambivalence humaine, qui va susciter émotions comme voilà la pitié, la peur, la colère, l'empathie. Voilà, c'est à peu près les grandes lignes du fait divers derrière lequel on a certains types d'événements, l'accident, le crime. Donc on a quand même un noyau dur du fait divers, mais on se rend compte aussi que le terme peut être vraiment utilisé pour pas mal d'événements qui seront un peu en périphérie de ce noyau dur du genre fait divers.
Le spectre, chaque expert, du fait divers est assez large. On dit, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais j'ai lu qu'il y avait trois types principaux de faits divers, ceux qui touchent les enfants, qui concernent les célébrités et qui sont hors normes. Est-ce qu'on peut classifier comme ça les faits divers ?
Non, c'est pas exactement comme ça que je classifierais. Non, je pense effectivement, enfin, je ne vais pas paraphraser ou continuer ce qu'on vient de dire. Je dirais que le fait divers, et c'est un peu la question que vous avez posée au début, on pourrait ajouter fait divers de société, parce que c'est à mon sens quand même un miroir de la société, le fait divers, tout ce qui se passe et ce qui est... Et si on est... Peut-être que votre question viendra, mais je vais y répondre dès à
Alors
présent.
Vous avez déjà répondu à la question du débat, mais voilà. Allez-y.
C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on est aussi intéressé par les faits divers ? Je crois qu'il y a une raison assez simple, me semble-t-il, au-delà de l'aspect extraordinaire de l'histoire, c'est que quelque part, ça nous concerne tous. Ouais. Ça nous concerne tous parce que ça peut nous arriver. Certains faits divers peuvent nous arriver, comme ça peut arriver, ça peut être notre voisin, des gens qu'on fréquente, à qui ça peut arriver. C'est ça qui... Il y a une proximité aux faits divers qui le rend, entre guillemets, attrayant.
Mais ça peut arriver, c'est peut-être attrayant, mais ça peut être aussi mal vu. Ça peut rendre aussi... ça peut arriver, c'est un peu anxiogène, cette phrase. À propos d'un fait divers, quand on lit les faits divers, je vais en citer, un septuagénaire se suicide après avoir tué sa femme, fosse sur mer, un homme tue sa fille de 16 ans et tente de se suicider. Ça peut vous arriver.
Oui, c'est-à-dire, vous venez de parler de harcèlement scolaire, par exemple. C'est des choses qu'en tant que père, ça peut arriver à vos enfants. Donc, ce sont des choses qui peuvent vous arriver. Et ce sont des choses dans lesquelles on est directement concerné par le voisinage, etc. Enfin, la politique, on connaît peu les hommes politiques. En revanche, votre voisin peut être un assassin ou peut avoir été tué.
Bérénice Mario, ça ne fait pas monter le sentiment d'insécurité en France, ce genre de... Si ça peut nous arriver, est-ce que s'il n'y a pas ce danger-là des faits divers dans les médias, le fait de les relayer de manière aussi importante?
Oui, c'est toujours la question de la place qu'on leur donne. C'est sûr que dès qu'on rend public, ça peut avoir un impact politique, en fait, et sur notre vision de la société, puisque les médias, parfois, on a cette impression que c'est, voilà, ça nous renvoie une image de la société, sauf que c'est une sélection de l'information. Donc oui, ça peut créer... Tout dépend quel statut on donne aussi à ces événements-là. Quelle place? Est-ce que c'est effectivement l'accident isolé qui va susciter peur, mais en même temps une certaine fascination pour ça? Ou est-ce qu'on dit c'est significatif? C'est significatif de quelque chose qui se passe dans la société. Donc voilà, je pense que c'est le discours aussi qui accompagne, qui est très important, et la place. C'est-à-dire, est-ce qu'on consomme dans un journal d'information ou est-ce qu'on consomme sur d'autres types de plateformes, plus de divertissement?
Margot Hochet, est-ce que les Français estiment qu'il y a trop de faits divers dans les médias? Vous qui êtes encore une fois chargée d'études à l'Institut Via Voice, il y a eu ce baromètre sur l'utilité du journalisme, dont le grand thème cette année, c'est les faits divers. Que nous dit ce baromètre sur cette question-là?
Oui, tout à fait. Alors déjà, nous avons été assez étonnés en regardant les résultats, de voir que les Français sont vraiment intéressés par les faits divers. Hein. Quand on regarde, on est à environ 7 Français sur 10 qui nous disent qu'ils aiment suivre le traitement médiatique des faits divers. Et on est sur un résultat un peu résiduel, seulement 6% qui nous disent qu'ils ne sont pas du tout intéressés. Donc on est vraiment sur des Français aujourd'hui qui aiment s'informer sur les faits divers et qui aiment même s'informer de manière proactive. C'est-à-dire qu'on est sur des Français, on est environ à 7 sur 10, donc vraiment 2/3 des Français qui vont aller chercher de l'information aujourd'hui sur les faits divers et essayer de comprendre un peu ce qui se passe, comme on disait, ce qui peut se passer près de chez nous. Hein, globalement, on est sur ces sujets-là et des sujets qui intéressent aujourd'hui les Français.
Chaque expert, donc il y a une demande, mais est-ce qu'il n'y a pas trop de faits divers? Est-ce que ça, vous dites que ça peut vous arriver, mais est-ce qu'à un moment, ça banalise pas justement le fait divers, cette omniprésence des faits divers dans les médias?
Non, votre question est, à mon sens, très intéressante parce qu'elle est très d'actualité d'une certaine façon. Parce qu'avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'information continue, avec ce déferlement quotidien d'informations où une information remplace une autre information, c'est vrai qu'on est submergé de on est submergé de faits divers. Et ça, pour moi, le terme dangereux serait sans doute excessif, mais c'est pour moi relativement...
Ça peut banaliser la portée du fait divers.
La banaliser, je ne sais pas, parce qu'après tout, un crime est un crime, si vous voulez. C'est-à-dire, on le juge comme ça. C'est simplement, oui, ça peut banaliser un peu le fait divers, dans le sens où finalement, on s'y habitue peut-être plus qu'avant.
Est-ce que tous les faits divers méritent d'être relayés, selon vous, qui êtes journaliste, encore une fois? Je vais citer deux faits divers que j'ai vus ces deux derniers jours dans Le Parisien. Une femme, ça c'était aujourd'hui, une femme arrêtée après avoir blessé un homme à l'aide d'une boîte de Pringles. Ce sont des chips. Et hier, surpris par une voisine, deux cambrioleurs tentent de se cacher sous une couette à l'arrivée des policiers. Ça apporte quoi? Non, mais à part le petit sourire.
Oui, c'est deux faits divers qui sont assez amusants. Je peux comprendre que Le Parisien les relaie parce qu'il y a quand même un côté assez divertissant dans deux histoires que vous venez de raconter. Donc, ça, c'est presque anecdotique. Ouais. Je veux dire, moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est comment un fait divers remplace très vite un autre fait divers au point qu'on finit par l'oublier. Un procès remplace un procès, etc. Alors, je ne voudrais pas faire le passéiste, mais c'est vrai qu'à l'époque où les choses étaient peut-être un peu plus contrôlées, ou en tout cas cernées par les journalistes, il n'y avait pas cette surenchère permanente à nos nouvelles histoires. Aujourd'hui, on est abreuvé trop, effectivement, vous avez raison, peut-être que ça banalise au final tout ça, mais je trouve qu'on traite trop de faits divers. Ouais. Ce que vous venez de raconter... Moi, ça ne me gêne pas qu'on les raconte, parce que finalement, qu'on en fait avec la presse en presse, parce qu'ils sont amusants, finalement. Ça fait partie aussi de l'univers, du périphérique, du fait divers. Mais finalement, est-ce que le monstre se banalise? Peut-être un peu.
Bérénice Mario, c'est quoi le danger qu'il y ait trop de faits divers, comme le dit Jacques Expert dans les médias?
Ouais, c'est vaste parce que ça dépend des faits divers qu'on va montrer aussi. Hein, parce qu'il y a certains faits divers qui méritent d'être montrés, qui amènent au débat, qui sont d'ailleurs plus parfois des faits de société.
Donc tous les faits divers ne sont pas des faits de société.
Selon moi, non.
Non.
Et c'est toujours la crainte, c'est que ça prenne la place d'autres types d'événements. Et l'information, elle est là aussi pour éclairer le citoyen, pour faire les choix qui sont pertinents pour lui, pour ses concitoyens, etc. Donc, le fait divers, ça plaît au public. Donc, bien évidemment, on peut le retrouver, on peut le lire. Ça répond à certaines peurs. Pour moi, il n'y a pas que du voyeurisme. Il y a quand même aussi quelque chose d'anthropologique dans le fait divers qui est intéressant. Donc, ça mérite quand même d'être raconté. Mais la crainte toujours, c'est que ça prenne trop de place et que ça prenne la place d'autres informations pour éclairer le citoyen. Et aussi, la crainte, c'est qu'il soit ensuite utilisé pour illustrer certaines idéologies qui vont aller dans la généralisation parfois abusive aussi et être propice à des discours de haine.
Une femme arrêtée pour après avoir blessé, je reprends ce fait divers, un homme à l'aide d'une boîte de chips, Jacques Expert, ça prend la place d'une autre info, nous dit Bérénice Mario. Parce que celui-ci, on pourrait se dire qu'il était trop et que ça apporte pas grand-chose.
Ça apporte rien, vous avez raison. Ça apporte simplement un petit sourire. Voilà, donc quelque part, ça me gêne. Enfin, je répète, ça me gêne pas.
D'accord. Mais vous avez dit un fait divers en remplace un autre. Vous avez couvert cette affaire Grégory et elle n'a jamais été remplacée.
Elle n'a pas été remplacée parce qu'elle reste toujours un mystère. C'est pour ça que 40 ans après, on se demande qui a tué l'enfant. Enfin, la question reste entière, même s'il y a à la fois des explications et il y a quand même des juges d'instruction qui ont quand même pas mal avancé sur ce dossier-là, en y donnant une solution. Mais il n'y a pas de fin judiciaire à l'affaire Grégory.
Qu'elle vit encore.
C'est quelque part... Et puis bon, il y a différents éléments qui font que cette affaire est un peu extraordinaire. Il y a la mort d'un enfant, les conditions dans lesquelles il est mort, c'est-à-dire jeté dans une rivière, ligoté, jeté dans une rivière. C'est un déferlement de presse, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, extraordinaire. Il y a une mère qui est accusée. Il y a un père qui tue celui qui pense avoir tué son enfant. Enfin, il y a quand même des éléments...
Couche toutes les cases...
Et il y a un corbeau en plus. En plus, il y a un corbeau qui précède la mort de cet enfant. On avait des lettres anonymes et des appels anonymes. Donc tout ça, c'est romanesque d'une certaine façon.
Comment le traitement alors, du petit Grégory et puis en général des faits divers a évolué? C'était il y a 40 ans. Vous étiez journaliste il y a 40 ans pour France Inter. Comment est-ce que le traitement médiatique des faits divers a évolué en 40 ans? Quel regard vous portez?
Je trouve qu'il n'a pas évolué.
C'était le même qu'aujourd'hui.
Oui, il y a vraiment il y avait déjà il y a 40 ans une course à l'information, à l'exclusivité, clairement. Le seul point sur l'affaire Villemain qui interpelle en tant que journaliste, c'est que il y a eu dans cette affaire une énorme faute journalistique. Aujourd'hui, il y a toujours cette course à l'information, sauf qu'à l'époque, il y a un journaliste et un groupe de journalistes qui a influé sur les enquêteurs, volontairement, pour en tirer un profit à la fois d'exclusivité et un profit pécuniaire. Et ça, c'est, pour avoir beaucoup quand même suivi de faits divers, je pense que c'est la seule fois où ça s'est passé, où il y a eu une telle implication d'un journaliste et deux journalistes, au pluriel, pour faire notamment inculper Christine Villemain.
On évoquait, Margot Hochet, le risque de faire monter un sentiment d'insécurité dans le pays avec la diffusion de faits divers. Quelles sont les émotions? Parce que je crois que dans Vervoice, vous en parlez,
oui,
dans votre baromètre
fait.
Sur l'utilité du journalisme. Quelles sont les émotions générées par la population à la lecture, à l'écoute ou en regardant des faits divers à la télévision?
Ce qui est assez étonnant, en effet, on a posé cette question, on avait une liste de 11 émotions pour essayer de voir un petit peu comment les Français se positionnent lorsqu'ils lisent des faits divers, lorsqu'ils découvrent des faits divers. Et ce qu'on voit, c'est globalement, les émotions qui ressortent sont vraiment plutôt à tonalité négative, donc c'est la grande majorité. On voit que l'émotion numéro 1, c'est la colère. Qui arrive vraiment en premier. Ensuite, on a la tristesse qui arrive en seconde position. Donc vraiment, on est sur des émotions assez fortes. On a la curiosité qui arrive quand même en troisième position avec cette idée de fascination qui peut ressortir derrière cette idée de curiosité. Et enfin, la peur qui ressort, notamment un peu plus chez les femmes aujourd'hui qui sont malheureusement plus victimes parfois de violences, notamment sexistes et sexuelles. Donc voilà, on est quand même vraiment sur une tonalité d'émotions plutôt négative, alors même qu'on a un intérêt pour ce type d'informations. Comme je voulais juste recouper avec les informations que vous disiez avant sur la bonne place, est-ce que le traitement des faits divers est perçu comme suffisamment, insuffisamment traité par les médias? Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on n'a qu'une minorité, 30% des Français, qui estiment que les faits divers prennent trop de place dans les médias aujourd'hui. Donc on est quand même sur une majorité de Français qui estiment que les faits divers ont leur place dans le traitement médiatique.
Jacques Expert, 78% des personnes qui affirment, des Français, hein, ressentir des émotions négatives face aux faits divers. Vous allez me dire, l'information, on a souvent des émotions négatives en la lisant, en la suivant. Mais les faits divers, est-ce qu'on ne pourrait pas davantage s'en passer?
Ça, c'est... je ne crois pas, parce que l'information, c'est raconter ce qui se passe, que ce soit politique, sportif, culturel, etc. Donc le fait divers, ce qui se passe dans notre sphère. Donc le fait divers fait partie de notre sphère. Donc après que ça inspire des réactions négatives, ça me paraît normal. Enfin, je veux dire, on ne va pas se féliciter parce que quelqu'un a tué une autre personne, ou parce qu'un homme a tué sa femme, ou parce que... On ne peut pas applaudir le square deck.
À quel point c'est nécessaire de comprendre ceci? Je ne sais pas, est-ce que c'est aussi nécessaire de suivre les faits divers, de comprendre les tenants, les aboutissants de ces faits divers que vous venez de citer, par exemple, que de savoir ce qui se passe aux États-Unis, l'actualité géopolitique, diplomatique, internationale?
C'est plus important, l'actualité internationale, clairement.
Il y a une hiérarchie.
Il y a quand même, pour moi, il y a une hiérarchie malgré tout, parce que, si vous voulez, sur l'actualité internationale, sur Trump, on peut avoir un avis positif, négatif, sur les relations avec l'Ukraine, etc., sur l'engagement de la France, etc. On recherche véritablement des explications à tout ça. Et je veux dire, le débat est peut-être plus puissant sur des faits nationaux ou internationaux que sur les faits divers. Le fait divers, c'est simplement du récit. Et c'est rarement... Alors, il y a quelques procès qui ouvrent des portes sociétales. Le procès de Gisèle Pénicaud, par exemple, a ouvert...
Procès des viols de Mazan.
Voilà, le procès de Mazan a ouvert l'emprise chimique, etc. Donc, il y a des procès qui ouvrent des portes. Il y a de plus en plus de procès sur des féminicides. C'est vraiment des portes qui sont très intéressantes à ouvrir aujourd'hui et qui sont sociétales, sur lesquelles il peut y avoir des débats. Ouais. Mais d'une façon générale, je dirais que le fait divers, c'est d'abord du récit, alors que la politique internationale, c'est aussi du débat.
Et Margot Hochet, d'ailleurs, je rebondis, selon votre sondage, le fait divers qui a marqué le plus les Français devant l'affaire Grégory, c'est l'affaire des viols de Mazan.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a posé cette question en ouvert, donc les personnes pouvaient vraiment nous répondre de manière libre. Et on voit que c'est vraiment le traitement médiatique de faits divers qui a été le plus cité. C'est donc ces procès aujourd'hui.
Bérénice Mario, est-ce que ces faits divers sont nécessaires pour évoquer certains sujets? Alors, je ne vais peut-être pas parler d'affaires aussi emblématiques que Mazan ou le petit Grégory, mais je vais citer par exemple le sociologue Pierre Bourdieu qui disait « le fait divers fait diversion ». Et est-ce qu'on a besoin de lire, d'entendre parler de féminicide pour évoquer la lutte la lutte contre les violences faites aux femmes?
Alors là, du coup, les féminicides, on est dans le fait de société, donc c'est un peu différent. Et je pense que dans ce cas précis, c'est effectivement intéressant d'avoir des histoires singulières, même si elles suscitent peur, colère, etc. Mais ça va vraiment incarner un problème. Et je pense que là-dessus, c'est important, cet effet de personnalisation. Quand on a un fait de société, c'est important d'avoir une histoire singulière pour pouvoir se projeter, identifier et mieux comprendre les tenants et aboutissants. Pour les autres événements, est-ce que c'est nécessaire? Bon, c'est peut-être pas dans ces termes-là. C'est-à-dire que le fait divers, en fait, même avant le journal, ces récits étaient déjà racontés. Donc, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se passe à travers ces récits d'accidents, de crimes, histoires extraordinaires, etc., qui se sont immiscés dans toutes les sphères artistiques, informationnelles, et etc. Donc, il est là. Et a priori, il n'est pas prêt de partir vu le sondage. Il suscite des émotions plutôt négatives, mais aussi ce qu'on peut souligner, c'est que dans sa médiatisation, on va mettre en avant aussi l'émotion collective que ça suscite. Et ça, c'est beaucoup plus positif. On va montrer une forme de solidarité de la société à travers des marches blanches, des témoignages de personnes qui ne connaissaient pas forcément les victimes et qui vont se dire choquées, etc., qui vont éprouver de l'empathie. Ça, c'est émouvant aussi. Et c'est plus de l'ordre de l'émotion positive, puisque on se dit, ah, l'autre est concerné par son prochain, même si c'est quelqu'un qui est anonyme. Et puis aussi, c'est pour une société, à chaque fois, elle se sent ébranlée par un fait divers. Et il va y avoir un rappel aussi des valeurs. On ne tue pas un enfant, on ne tue pas par jalousie, etc. Et donc, c'est aussi un moyen pour une société, après le drame, de s'unir à nouveau, en fait, et de réaffirmer ça dans le discours.
Quel est votre regard en tant que maître de conférence sur justement l'affaire Grégory qu'a couvert Jacques Expert et qui est devenu une saga ? Déjà, est-ce que le mot saga est approprié quand on parle de faits divers ? Je vais citer un témoignage que j'ai trouvé assez fort, qui a été recueilli en début d'année par La Croix, qui dit « Suivre l'affaire Grégory, c'est comme crier ensemble à les Bleus pendant un match de Coupe du Monde ou siffloter une chanson de Johnny, on a tous ça en commun. »
Ouais. La crainte face à ces faits divers-là, qui après aussi ont fait l'objet de fortes médiatisations et parfois adaptées d'un point de vue fictionnel, c'est cette absence ça devient de l'ordre de la fiction, en fait. Et c'est ça aussi où il faut faire attention face à ces faits divers qui sont effectivement pleins de rebondissements, dignes de scénarios qu'on n'aurait même pas forcément réussi à imaginer. Et on se serait dit, c'est pas réaliste, en fait. C'est qu'il y a une... Voilà, on s'éloigne du réel, ouais. Et ces gens existent, en fait. Oui.
Et ça pose question, justement.
C'est ça qui est dangereux, voilà. Oui. C'est ça qui est dangereux, c'est qu'à un moment, on oublie que derrière, c'est vraiment des individus. Voilà, l'affaire Grégory, elle est effectivement assez impressionnante par tous les rebondissements, par la part de mystère qui domine, comment elle traverse les décennies, aussi par tous les récits qui vont être produits et les nouveaux médias aussi permettent de faire encore exister ces vieilles affaires. On parlait tout à l'heure, est-ce que la manière de raconter les faits divers a évolué ? Peut-être dans le discours journalistique, c'est vrai, on a des grandes tendances qui sont encore là, mais ce qui est intéressant de voir, c'est comment les nouveaux supports médiatiques amènent aussi à d'autres types d'appropriation et de circulation. Par exemple, voilà, des plateformes comme Netflix, pour le fait divers, c'est un renouveau incroyable, en fait. C'est un puits sans fond. Si vous commencez dans cette catégorie sur Netflix, vous arrêtez jamais, en fait. Donc ça aussi, ça renouvelle le genre.
Les faits divers sont-ils des faits de société ? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, alors que les faits divers constituent le thème cette année des assises du journalisme qui sont ouvertes hier à Tours, dans l'ouest de la France, et qui vont se dérouler toute la semaine. Mes trois invités sont Bérénice Mario, que l'on entendait, qui est maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'Institut catholique de Paris, qui vient de publier « Mécanique du fait divers, histoire singulière, émotion collective ». Margot Hocher, chargée d'études à l'Institut Via Voice, qui a travaillé sur le baromètre sur l'utilité du journalisme avec lequel France Média Monde est partenaire et dont le grand thème cette année c'est les faits divers. On l'a détaillé. Et puis Jacques Expert, journaliste, écrivain, auteur de nombreux livres, notamment sur les faits divers, ancien grand reporter à France Inter. Et vous avez notamment, on en a parlé, couvert l'affaire Grégory. Jacques Expert, vous avez dit tous les faits divers ne sont pas des faits de société, mais alors à partir de quand un fait divers devient un fait de société ?
Vous y avez un peu répondu tout à l'heure, c'est-à-dire, je pense, un fait divers devient, quand il pose une question de société, c'est une question sociétale, c'est aussi simple, je ne vois pas comment répondre différemment que ça. Ouais. Le procès de Mazan dont on a...
Il faut que ça soulève des problématiques sociétales. Oui, mais alors ça... finalement, tout fait divers en tout cas, soulève des problématiques sociétales, non ?
Le procès de Mazan, il ne soulève pas la... Il met en lumière un phénomène qu'on soupçonnait peu de cette soumission chimique. On pensait que ça existait, et les enquêtes qui ont été menées ensuite, ou parallèlement au procès, ont montré que c'était un phénomène relativement répandu, dans lequel il fallait se méfier. Donc derrière, il y a des commissions qui enquêtent, etc. Donc ça provoque un mouvement d'interrogation de société, clairement, sur ce phénomène-là. Donc, c'est vrai que les féminicides, dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisqu'il y a quasiment un féminicide tous les jours dans le journal.
C'est un fait de société.
C'est un fait de société qui est, qui est arrivé d'une certaine façon avec la vague MeToo. Mmh. C'est une espèce de, c'est relativement récent qu'on parle autant. Avant, on parlait de d'affaires de cœur, enfin de
crimes passionnels.
Crimes passionnels, ouais. Voilà. Alors que aujourd'hui, la terminologie a changé.
Mais est-ce que la terminologie a changé, mais crimes passionnels ou féminicide, comme on les appelle aujourd'hui, étaient relayés autant, entre guillemets, à l'époque où vous couvriez les faits divers pour France Inter?
Oh non, ils n'étaient pas très peu reliés.
D'accord.
Non, non, bien sûr. On appelait cela un crime passionnel. Ouais. C'est-à-dire, on tuait parce que la femme ou l'homme vous avez quitté. Donc, c'était passionnel. Aujourd'hui, c'est un assassinat.
Bien sûr.
Voilà, ça, des choses. Donc, on en traitait quasiment pas.
Bérénice,
de mémoire.
Bérénice Mario, je vais poser la question différente. Qu'est-ce qui n'est pas un fait de société parmi les faits divers?
La limite, elle est très fine parce que un fait divers, on peut effectivement pour certains se l'emparer et dire que ça questionne sur la société. Par exemple, Éric Zemmour, sur la même logique que le féminicide, dit il y a francocide. On est tué parce qu'on est français. Et donc, lui, il s'empare et d'ailleurs, il met bien en avant, vous n'êtes pas des faits divers. Il veut s'opposer aux faits divers. Vous êtes un francocide, etc. Donc, on voit bien que n'importe qui peut dire que tel fait divers n'est pas fait divers, mais est fait de société. La limite, elle est très fine. Souvent, c'est dans les chiffres, quand même. C'est la récurrence aussi du problème. Après, là aussi, ça pose problème parce que la récurrence, on peut la travailler. C'est-à-dire qu'on peut rendre visible toujours un même type d'événement et dire, vous voyez, c'est significatif. C'est ce qu'on fait aussi à travers les réseaux sociaux. Justement, l'extrême droite va mettre en série plein de faits divers où c'est des Français qui sont tués, en faisant abstraction de toutes les autres victimes qui peut y avoir au cours de l'année. Donc, on peut aussi construire cette forme de répétition pour la rendre signifiante. Donc, c'est très difficile. Je pense qu'en fait, il faut à chaque fois se questionner. On ne peut jamais totalement dire ça, c'est vraiment un fait de société, etc. Il y a toujours la question qui se pose et en quoi ça permet de soulever un débat.
Mais alors, vous soulevez surtout et vous élargissez le débat en évoquant l'instrumentalisation, le risque d'instrumentalisation politique des faits divers. C'est intéressant. Et je me tourne vers vous, Margot Hochet, parce qu'il y a quelque chose qui m'a marqué dans votre baromètre via Voice. 15% d'écart dans l'intérêt que les faits divers suscitent chez les sympathisants de gauche et les autres sympathisants d'autres partis.
C'est vrai que la question de proximité partisane, c'est l'un des seuls reliefs qu'on a dans les perceptions des faits divers aujourd'hui parmi les différents profils. Et on a posé la question directement aux Français, le fait que parfois les personnalités politiques, elles s'emparent des faits divers qui font actualité. On leur a demandé si pour eux c'était quelque chose d'indispensable ou plutôt inutile. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même 62%, donc la majorité des Français qui nous disent qu'ils estiment que c'est au moins parfois nécessaire que les politiques s'emparent de ces faits divers, ce qui montre bien donc vraiment cette nuance entre faits divers, faits sociaux qui reste assez fine.
Et surtout, le fait que les sympathisants d'autres partis sont ceux pour qui les faits divers sont importants. C'est ce que je disais, 15% d'écart chez les sympathisants de gauche, 63% estiment que les faits divers sont importants et c'est plutôt 75 ou 79% du côté des autres partis.
On est sur des nuances, nous, qu'on estime quand même assez limitées. Hein. On est
D'accord.
sur des écarts de 5-6 points. On le remarque moins ici parce que ce n'est pas des choses, nous, en statistique, qu'on dit significatives. Donc on est sur des tendances où, en effet, on peut avoir les sympathisants de droite et surtout d'extrême droite qui vont s'intéresser davantage aux faits divers. On le sait notamment parce que ce sont des Français qui peuvent parfois porter un peu plus d'importance aux questions sécuritaires qui sont liées notamment aux faits divers.
Oui. C'est le risque de la récupération, en tout cas pour répondre à la question. Les faits divers sont-ils des faits de société? Oui, mais pas tous les faits divers. On conclura comme ça. Bérénice Mario, merci. Jacques Expert, Margot Hochet, merci beaucoup à vous trois.
RFI.
Allez, dans une minute, ce sera le grand journal du soir avec Diane Berger. Puis dans 30 minutes, ce sera Afrique Soir, la première édition. Paul Lancin-Spinelli, bonsoir.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
À la une ce soir, Paul.
Ce procès qui reprend après une suspension de 7 ans au Bénin. Les assassins présumés de l'opposant et syndicaliste urbain d'Agnivaux, mort il y a 10 ans, sont de nouveau devant la justice depuis aujourd'hui. Notre dossier du soir consacré aux 5 ans du début de la pandémie de Covid. Pandémie, c'est le terme employé pour la toute première fois par l'OMS ce 11 mars 2020. Quel bilan en Afrique? On en parle dans 30 minutes. Et puis, ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Patrice Motsepe sera réélu demain à la tête de la Confédération africaine de football. Le Sud-Africain est le seul candidat en lice. L'occasion de revenir sur ses 4 premières années en tant que président de la CAF.
Eh bien, merci. On vous retrouve dans 30 minutes, dans 30 secondes. Elle est déjà là, Diane Berger, le grand journal du soir sur Radio France Internationale.